Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Rarement cette émission tiendra plus qu'aujourd'hui ses promesses de voyage, puisque l'aventurier que je reçois est mieux qu'un globe-trotteur intrépide. Il est LE globe-squatter de l'émission devenue culte « J'irai dormir chez vous ». C'est Antoine de Maximy qui ouvre un nouveau chapitre de son histoire, inspiré par les expériences les plus délirantes qu'il a traversées et dont il aurait pu ne jamais revenir. Voilà, un film pour le cinéma et donc en préparation avec un financement participatif dont on parlera bien sûr tout à l'heure.
Europe 1.
Bienvenue cher Antoine de Maximy.
Ben bonjour.
Alors Antoine de Maximy, que cherchez-vous en fait depuis 15 ans au travers de tous ces visages sous toutes les latitudes? Quelle vérité cherchez-vous? Il s'agit de découvrir l'autre ou bien en fait de se trouver soi-même dans cette aventure dont l'appétit ne sera jamais rassasié?
Il y a un peu de tout ça, de se chercher soi-même et de découvrir l'autre. Mais effectivement, je ne serai jamais rassasié de ces voyages. Alors qu'est-ce qui me pousse à voyager comme ça, aller à la rencontre des gens? Je crois que j'ai vraiment une démarche de reporter, c'est-à-dire d'aller quelque part, de voir ce qu'il y a, de le filmer, de le ramener. C'est vraiment la démarche de base.
La démarche de base. Mais je précise, bien sûr, vous voyagez seul, harnaché de vos trois petites caméras greffées à vous, et les destinations à haut risque ne vous font absolument pas peur. En fait, vous êtes un miraculé.
je sais pas. Il y a certainement des moments où j'ai eu de la chance et pas
uniquement. On va les évoquer tout à l'heure.
Ouais,
hein.
Tout à fait. Et pas uniquement dans J'irai dormir chez vous, dans d'autres choses que j'ai pu faire avant où j'ai pris parfois vraiment des risques.
Donc vous êtes un miraculé, Antoine de Maximy.
Bah on va dire comme ça, mais pourvu que ça dure.
Oui, mais les auditeurs pourront en juger tout à l'heure. Donc je confirme, vous êtes un miraculé qui se dit bon, 1000 fois ça aurait pu déraper et comme je voyage seul, en dehors de tout circuit officiel, personne n'aurait pu me retrouver. Alors voilà, c'était éventualité qui depuis 15 ans donne une dimension incroyable à l'aventure de J'irai dormir chez vous, vous avez décidé d'en faire un film, un long métrage pour le cinéma. Mais on sera dans la fiction pure ou pas tout à fait?
Non, on va être vraiment dans la fiction. On va être dans la fiction, mais d'habitude on est inspiré d'une histoire vraie. Là, ça va être même pas inspiré, ça va dire reposant sur une histoire vraie, même si c'est extrapolé. En fait, parce que je me suis souvent posé des questions de savoir ce qui aurait pu arriver et je me suis fait le plaisir d'écrire ce qui aurait pu arriver. Et heureusement que ça n'est pas arrivé.
Bon, tout à l'heure, on va reparler de ce projet de film qui est passionnant, mais restons sur ce qu'il a fait naître, le concept en fait de « J'irai dormir chez vous ». Pour le lancement de l'émission, le slogan c'était « Quand rien n'est prévu, tout est possible ». C'est votre devise ou pas?
Ça l'est devenu, mais ça l'était pas.
Ah.
En fait, j'irai dormir chez vous, j'ai l'impression, quand l'émission est arrivée, donc en 2003, ça a éclos, mais ça avait mûri pendant des années et peut-être même pendant toute ma vie. Parce que moi, dès mon enfance, j'étais déjà dans cette espèce de logique. Un, d'aller voir ailleurs. Deux, de rapporter ce que j'avais fait. Trois, de faire déjà des films. Mon premier film, je l'ai quand même fait à 12 ans. J'étais déjà dans cette continuité.
Mais alors, ce film, il n'est pas seulement inspiré des expériences folles de J'irai dormir chez vous. En fait, il est inspiré de la somme de toutes les émotions que vous avez pu récolter en 20-25 ans de reportage. On va le raconter tout à l'heure. Vous avez d'abord été reporter de guerre, puis vous avez fait du documentaire, des animaliers, des expéditions scientifiques. En fait, il est inspiré de votre vie.
Oui, mais d'ailleurs, c'est très drôle parce que je suis connu pour J'irai dormir chez vous. Mais moi, dans ma vie, je sais que ce que j'ai fait avant J'irai dormir chez vous était beaucoup plus exceptionnel. Me fait aller beaucoup plus loin dans des conditions bien plus incroyables. Mais J'irai dormir chez vous, c'est ce qui m'a fait connaître. Mais je pense que J'irai dormir chez vous n'aurait pas pu exister si je n'avais pas fait avant les autres
Bien
choses.
Sûr. Vous dites, je ne suis pas journaliste et j'adore ne pas l'être. C'est pour ça que J'irai dormir chez vous fonctionne si bien? C'est parce que vous n'êtes pas journaliste?
J'ai fait des stages de journalisme. Parce que bon, j'ai une scolarité brève. Hein. Moi, ils m'ont foutu dehors à 17 ans. Donc j'ai bac moins 2 et j'ai rien fait après comme étude. Par contre, j'ai passé ma vie à apprendre et je connais beaucoup de choses aujourd'hui.
Terrain.
Oui, parce que j'aime apprendre, moi. J'adore. Mais en fait, j'ai fait un stage de journalisme à un moment, d'écriture, un truc de base. Et moi, il y avait des choses qui me dérangeaient.
Comme
il fallait avoir un axe. Il fallait prendre un parti. Et moi, j'aime pas ça. J'aime bien montrer les choses et à la limite, ne pas les orienter. Dans J'irai dormir chez vous, je montre le monde, des situations, des rencontres. Et je suis toujours très content quand quelqu'un me dit « Oh, ce pays-là, ils sont pas très cool, c'est pas facile. » Et qu'une autre personne me dit l'inverse sur le même pays. Parce que ça veut dire que j'ai bien respecté une réalité et que chacun la reçoit comme il a envie.
Antoine de Maximy, comment expliquez-vous que des gens qui ne sont pas habitués à voir des caméras oublient si vite celles qui sont harnachées sur vous, greffées à vous ?
Alors, il y a une raison très simple, c'est que premièrement, elles ne sont pas très grosses. Elles font 4 cm de côté, c'est petit.
Oui, mais le harnais tout de même est singulier, étonnant.
Ah, il est complètement singulier, mais c'est jamais qu'une tige d'un centimètre de diamètre.
Mais c'est visible.
Ah oui, c'est visible. Mais, et la deuxième chose, et qui est probablement la plus importante, c'est que quand je rencontre quelqu'un, je lui parle en le regardant dans les yeux, et j'ai mes mains qui sont libres.
Vous n'êtes ni derrière un micro, ni derrière une caméra.
Ben non, je suis à côté de mes caméras et je suis à côté de mes micros. Je ne regarde pas dans le viseur. C'est d'ailleurs pour ça que j'irai dormir chez vous et pas toujours bien filmé. Mais qu'est-ce qui passe ? C'est l'intensité et l'authenticité.
C'est vous qui montez ?
Ah non, je ne monte pas. Je suis le réalisateur, ça veut dire que je dirige. Mais je ne monte pas parce que c'est une gymnastique de travail, c'est un métier évidemment, et qui prend une part du capital cerveau, je dirais. Et que si moi je prends ça en plus, je n'aurai pas le recul. J'ai un super recul quand j'arrive dans la salle de montage parce que justement je me repose sur mes monteurs.
Mais en amont, vous ne donnez jamais d'indications pour le montage.
Si, tout à fait.
Si, juste des indications. Ah si, quand même.
Oui,
alors,
oui, tout à fait.
Alors le monteur suit ce que vous lui dites de faire.
Alors non, il a des consignes que je trouve très bien. C'est-à-dire que il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, moi, je lui dis, voilà, il y a eu telle séquence, je pense que ça, c'est bien, ça, c'est moyen, etc. Tu montes ce que tu veux. S'il y a une séquence que tu trouves naze, tu la mets de côté, tu la montes pas. S'il y en a une que j'ai écartée et qu'elle te plaît, tu la montes. Et quand j'arrive, moi, après 3 semaines, parce que je lui ai donné tous les éléments nécessaires à faire ce travail, et que je découvre les séquences et qu'on arrive au moment où on va construire le film, bien, je connais les images par cœur parce que je les ai vues et visionné intégralement, et j'ai énormément de recul. Donc je vois tout de suite ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et éventuellement, on va revenir en arrière, aller rechercher une séquence qui n'a pas du tout été montée, parce qu'elle a du sens.
Europe 1. On fait une très courte pause, et puis on continue cette balade cet après-midi en compagnie d'Antoine de Maximy.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Et jusqu'à 16h, Isabelle Morizet s'entretient avec le routard Antoine de Maximy.
Antoine de Maximy, héros de l'émission devenue culte depuis 15 ans, mais oui, j'irai dormir chez vous, se lance à présent dans la fiction. Et oui, le 7e art. On va en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, on agite les souvenirs. Antoine de Maximy, partir à l'aventure. Le premier voyage que vous avez envisagé, à l'âge de seulement 5 ans, était une fugue qui vous a conduit en pleine nuit jusqu'à la porte de Gentilly, en descendant le boulevard extérieur, après avoir quitté l'appartement de vos parents qui se trouvait dans le 13e. Vous étiez en attente de quoi à l'âge de 5 ans pour avoir fugué ? Vous vouliez embarquer vers quoi ?
Je ne sais pas ce que je cherchais vraiment, mais grosso modo, je pense pouvoir dire tout de même que je voulais aller voir ailleurs à un autre moment. Voilà, ça c'est certain. Parce que, en fait, j'ai embarqué mon voisin de palier. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de partir, parce que chacun a dit qu'il était chez l'autre. Donc déjà, ça y est, t'étais tranquille, il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Et effectivement, on habitait vers métro Maison Blanche et on est allé jusqu'au boulevard, les boulevards des Maréchaux, qu'on a traversé. Et de l'autre côté, il y avait le jardin. Oui, il y avait le jardin, c'était la nuit. Hein. Et c'était pas tard, il était 6h, 7h du soir. Parce qu'on voulait retourner au jardin où on allait la journée. Et puis, quand on est arrivé là-bas, que ce n'était pas éclairé, ça nous a semblé beaucoup, beaucoup moins glamour,
attractif,
on va dire.
Attractif, oui,
voilà.
Oui.
Mais je me souviens d'une chose, c'est que j'étais déjà hyper prudent. Parce que, et à l'époque, il y avait des feux, mais il n'y avait pas le petit bonhomme vert et le petit bonhomme rouge. Donc, on est arrivé, le feu était rouge pour les voitures, et j'ai dit, non, on ne traverse pas, on attend que ça passe vert, et que ça repasse rouge. Parce que là, on ne sait pas depuis combien de temps c'est rouge et on ne sait pas si on a le temps de traverser.
Formidable.
Donc, j'étais déjà dans une espèce de logique de prudence.
Mais comment vous a-t-on récupéré ?
On est rentré.
Ah, c'est vous ? Ce ne sont pas les parents qui sont venus vous chercher ?
Je crois qu'on est parti 2 heures. Donc, ils ont eu le temps de trouver le temps long. Et je me souviens que ma mère avait d'ailleurs fait exprès des frites pour que j'en aie pas.
Ah, parce que vous adoriez ça. Ben,
il fallait que je sois privé de quelque chose, exactement.
Voilà. Alors, puisque vous évoquez vos parents, tous deux, peintres, étaient des artistes fauchés, totalement anticonformistes. Oui. Et vous avez grandi, Antoine de Maximy, dans un joyeux bordel, même si l'appartement était vide de tout meuble. On peut dire dans un vrai bordel.
Oui, 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 tout à fait. Ben moi, on dit on est où on peut, on démarre où on peut, on ne choisit pas ses parents et tout. Et ben, d'abord, c'est vrai, mais moi, j'ai eu du bol. Je suis tombé dans un endroit qui était vraiment bien pour ce qui était de l'ouverture d'esprit.
Oui.
Parce que il n'y avait pas d'argent, je veux dire. Mon père était dessinateur peintre, ma mère était peintre aussi. Ils vendaient pas grand chose et ils avaient décidé qu'ils feraient ça et ils avaient 4 enfants. Donc c'était pas simple du tout. Et je sais que il y a eu 5 ans qui ont vraiment été durs. Et je peux dire qu'on a mangé des patates ou des
pâtes,
nouilles,
voilà.
Mais à tous les repas. Et que quand on allait à la cantine, nous, bah on trouvait ça très bien. Non, non, c'était. Mais en revanche, il y avait un brassage d'idées chez mes parents.
Oui.
C'était juste après 68. Moi, j'avais 10 ans en 69. Donc, mes parents recevaient plein de monde.
Voilà, c'était un bouillon de culture. Parce qu'il paraît que votre papa adorait ramener à la maison des gens qu'il croisait dans la rue, sac à dos, et qui dormaient chez vous à même le sol.
Bah oui, on n'avait pas de matelas pour eux.
On peut dire que, sans le savoir, en fait, c'est votre père qui a planté la graine du concept de j'irai dormir chez vous.
Mais bien sûr, ça a joué, ça. Mais il faut quand même essayer d'imaginer un petit peu ce que ça donnait. C'était un appartement qui était rue Dieu à Paris, qui faisait 300 mètres carrés.
Les huissiers... Dites-moi, c'est très chic pour des gens fauchés.
Mais non, parce qu'en 1968 et 1969, il y en avait partout des grands appartements qui n'étaient pas habités, etc. Quand on est entré dans cet appartement, il n'avait pas été loué depuis des mois, peut-être des années. Puisqu'il y a une anecdote qui est vraiment claire, c'est que, et clair, c'est rien de le dire, c'est que ils étaient passés en 220, l'électricité.
Oui.
Mais toutes les ampoules étaient en 110, puisqu'il n'avait pas été habité.
Donc tout a sauté le
Donc,
jour où vous
dès
avez
qu'on
voulu
a visité l'appartement le premier soir,
l'interrupteur.
Mon père allumait la lumière, il y avait une lumière aveuglante pendant une minute, et pouf, l'ampoule grillait. Donc on a visité l'appartement pièce par pièce, dans la grande lumière, et on a fini à la bougie.
Alors, chaque dîner était une aventure. Vous ne saviez jamais qui serait autour de la table familiale. Ça vous convenait, ça ? Ou bien tout de même, ça vous perturbait un petit peu parce que les enfants ont besoin de repères pour trouver leur marque ?
Il y a eu les deux. C'était bien parce que ça nous permettait aussi de faire pas mal ce qu'on voulait parce que les parents n'étaient pas du tout derrière nous. Mais en même temps, par moments, c'était trop. C'est évident qu'on aurait voulu avoir un peu plus nos parents avec nous. Mais on a eu tellement de monde parce que ça a été une espèce de on a fait tomber plein de barrières et mon père recevait aussi bien le directeur du Collège de France que le concierge de l'immeuble qui était un ancien légionnaire et des gens qui étaient aux extrêmes les uns des autres et qui discutaient de la vie de la révolution et du monde à venir.
Alors,
c'était génial, il y avait Rufus qui venait chez nous.
Antoine de Maximy, vous êtes l'aîné de 4 enfants, né en 4 ans. Donc cette éducation bohème, mais en même temps si étonnante, intense, bouillon de culture, comme ça, éducation autour d'une espèce de radeau de la Méduse très joyeux. Est-ce que ça a donné à chacun de vos frères et sœurs l'envie d'aller voir ailleurs, comme vous ?
Alors, non, pas pareil. J'ai un frère qui est plutôt régulier dans sa vie, qui est d'ailleurs beaucoup plus stable que moi dans ses relations, et qui vraiment, je veux dire, ça va, il n'a aucun problème, il vit bien, etc. J'ai un autre frère qui, lui, est allé voyager une fois, il a trouvé sa femme au Mexique, il est resté dans le pays. Et puis, j'ai une sœur qui a été, elle, assez artiste, bohème, qui a fait son parcours aussi.
Donc, toute la famille a du relief.
Oui, mon frère, en plus, ça me fait rigoler, parce qu'il est assureur. Bon, mais c'est le seul assureur, c'est le seul assureur que je connaisse qui se fasse cambrioler et qui découvre qu'il n'est pas assuré, quand même. Et ça, il l'a fait. Hein.
Ah oui, donc le petit grain de folie est bien dans l'ADN, Maximy. Alors, je reviens à l'enfance et je reviens aux très longues vacances scolaires que vous passiez à l'époque dans la Drôme, chez votre grand-mère, parce que vos parents n'avaient pas un sou pour vous emmener ailleurs. L'été de vos 13 ans, vous avez donc dégoté une caméra, alors je ne sais pas où ou comment, et pour tromper l'ennui, vous avez tourné votre premier film de 2 minutes 30 en Super 8. C'était quoi le scénario ?
Alors le scénario était relativement improvisé, mais on va résumer de la façon suivante. C'est 4 enfants, c'est-à-dire mon cousin et moi qui filmions ma sœur et une cousine. Donc nous, on était les plus âgés, et donc les deux autres devaient avoir 8-10 ans, quoi. qui ont fait des bêtises et qui donc sont punis. Et pour se venger d'avoir été punis, d'avoir fait des bêtises, font plus de bêtises. Et donc après, il y a la séquence également représailles et recadrage. C'est un film moral.
Ah, très bien. Que vous avez projeté aux parents ?
Ah ben, on a fait plus que le projeter, parce qu'aux vacances d'après, il a fallu faire le son. Donc on a projeté le film muet et on a mis un micro au milieu de tout le monde et chacun devait redire son texte à peu près en place.
Faire de la post-synchro.
Voilà, et on bruitait en même temps, on envoyait les musiques, enfin on a fait... Et mais il est pas mal, il est pas mal du tout.
Vous l'avez toujours chez vous, ce film ?
Je l'ai, bien sûr, je l'ai toujours.
Alors, je précise que le cousin qui vous a aidé donc, à tourner
oui,
ce film,
bah,
depuis, il est caméraman sur France 3.
Oui, en fait, on était très... très du même niveau. On adorait la technique. On était, je dirais, il n'y a pas un qui est plus malin que l'autre. On était tous les deux pareils. Il y avait juste une différence entre lui et moi. C'est que lui, il voulait avoir une vie régulière et que moi, je ne voulais pas avoir de vie régulière.
Europe 1. Bon, alors, avec ce que vous nous avouez, effectivement, Antoine de Maximi, vous ne pouviez pas échapper au destin qu'on va raconter dans quelques instants. Celui d'abord de reporter de guerre, puis de réalisateur de documentaires, parfois animalier, mais pas seulement, au cours d'expéditions folles dans des conditions vraiment extrêmes. Alors voilà, les 1000 vies d'Antoine de Maximi, c'est tout de suite, après cette pause.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est une heure en tête-à-tête avec un invité pour Isabelle Morizet qui aujourd'hui retrace le parcours de l'animateur voyageur de France 5, Antoine de Maximi. L'histoire de sa vie, c'est jusqu'à 16h sur Europe 1.
Antoine de Maximi, l'histoire de votre vie, c'est pas compliqué, c'est un scénario de film. Vous n'avez donc jamais passé votre bac, puisque en seconde, lassé d'être un redoublant.
Moi, je l'ai pas raté.
Voilà, vous l'avez pas raté du coup. Vous avez opté pour 3 ans de service militaire au cinéma des armées en tant qu'ingénieur du son. Et puis à partir de là, vous êtes retrouvé sur une étonnante rampe de lancement. Alors, on est en 80, vous avez 20 ans, et l'armée française décide de vous envoyer à Beyrouth en pleine guerre. Pourquoi ?
Oui, alors enfin, ça, c'est ça qui est drôle. Moi, je m'engage dans l'armée pour faire du cinéma. Et donc, j'arrive à me faire engager au cinéma des armées. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais en fait, ça, tout le monde comprend.
Ouais.
Et je fais un petit enregistrement d'un char sur un banc d'essai, un travail très très simple, et ils m'envoient direct à Beyrouth. Parce qu'ils avaient besoin de faire un reportage sur la FINUL, l'ONU. D'ailleurs, j'ai été casque bleu, moi, pendant 15 jours. Et on a fait ce reportage, mais c'était à une époque où c'était très calme, Beyrouth. Alors, c'était tout détruit, c'était la guerre qui avait déjà...
Là, c'était en 80, donc c'était expédition à Beyrouth, hein, parce que la deuxième, c'était beaucoup moins calme.
Et la deuxième, j'y suis retourné 5 ans plus tard, dans des conditions beaucoup plus chaudes, 4 ans plus tard,
oui.
Avec CBS News, c'est-à-dire la télé américaine.
C'est-à-dire que là, vous étiez officiellement devenu reporter de guerre pour CBS News,
voilà, alors
c'est
j'étais
ça
ingénieur du son d'une équipe de reportage de guerre,
oui.
Parce qu'il y avait le journaliste, il y avait le caméraman, qui était toujours un copain. Et on a là, ça a vraiment été très très chaud. C'est-à-dire que on est arrivé, on nous a dit qu'on partait, on a eu ça sur nos répondeurs en pleine nuit. Le lendemain matin, on était à l'aéroport, on avait à peine eu le temps de prévenir la famille, etc. Parce qu'il n'y avait pas les portables. Donc
oui.
On est parti à Beyrouth. Le premier soir, on a dormi à l'hôtel, normalement dans sa chambre, et ça a été fini pendant un moment. Parce que le lendemain midi, on est allé juste déjeuner et puis on a entendu des coups de feu qui commençaient.
Oui.
On est rentré vite à l'hôtel pour prendre les caméras, pour les filmer ce qui se passait. Et en fait, ça a dégénéré extrêmement vite parce que c'était la guerre d'un seul coup.
Oui, et puis il faut préciser que lorsque votre avion s'est posé à Beyrouth, Antoine de Maximi, il n'y en a pas eu d'autres pendant 18 mois. L'aéroport a été
au moins,
totalement prêt. 2 ans, c'est ça ? Totalement bouclé. Donc vous ne pouviez pas repartir.
Alors, en tout cas, pas par les airs, c'était compliqué. Mais on n'était pas complètement bloqué, on aurait pu repartir en voiture. Mais dans un premier temps, quand ça se passe comme ça, il faut imaginer ce que c'est. C'est-à-dire que tu ne sors plus de l'hôtel, il y a des obus qui tombent toutes les 20 secondes dans la ville. Donc si tu sors, tu risques de prendre des éclats.
Mais même en restant à l'hôtel.
Et même en restant à l'hôtel, justement, puisqu'on n'a plus dormi dans nos chambres. On a voulu essayer de dormir dans les couloirs entre les chambres et on s'est dit que même là, c'était trop dangereux. Et on est donc descendu dans les caves de l'hôtel où il y avait absolument tous les correspondants, tous les journalistes, tout le monde dormait dans les caves par terre.
Mais à 24 ans, on se trouve au cœur d'une guerre en fait, qui ne vous concerne pas, même si officiellement c'est votre job d'être porteur de guerre. Vous vous sentiez invincible, vous vous sentiez immortel.
Bah, 24 ans, t'as 24 ans, donc pas trop, parce que ça ne peut arriver qu'aux autres. Non, 24 ans, t'as pas peur. T'as vraiment pas peur. Et petite anecdote paradoxale, je veux dire, il y a des obus qui étaient tombés devant l'hôtel et qui avaient abîmé une voiture de quelqu'un qu'on connaissait. On voulait aller la voir. Donc on sortait elle était à 5 mètres de l'hôtel. Et puis, quand il y a un obus qui part, ça fait poum. Et là, tu sais qu'il va arriver dans 3 secondes.
Donc, on a 3 secondes pour se mettre à l'abri.
Donc, on rentrait en courant dans le hall de l'hôtel, on se cachait derrière des gros poteaux en béton. Et puis, on ressortait. Et puis, ça revenait, poum. Donc, on repartait. Mais au bout de 5 fois, quand t'as 24 ans, tu rigoles.
Combien de temps,
tu
ça
joues.
Vous êtes resté prisonnier à Beyrouth, en fait. Combien de temps?
Je crois qu'on a été vraiment bloqué dans Beyrouth pendant peut-être 10-15 jours. Après, il y a eu d'autres journalistes qui sont arrivés. Et puis, il y a eu ceux qui voulaient partir, qui ont pu commencer à partir. Mais avant, ce n'était pas possible, c'était trop dangereux. Et alors, ce qu'il faut, c'est se mettre à la place de mes parents. Mes parents, ils entendaient que Beyrouth était à feu et à sang et qu'on ne savait pas. Donc, ils ont dû avoir des moments un peu difficiles.
Antoine de Maximy, on devient fou si on fait le métier de reporter de guerre toute sa vie?
C'est possible, ça. C'est possible. Moi, je sais qu'au bout de 5 ans, même pas, 3 ans, je crois, j'ai dit, j'en ai marre. Parce que je stressais dès qu'il y avait le téléphone qui sonnait ou qu'il y avait un bruit violent. Donc, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Et c'est là que je me suis lancé dans le cinéma animalier et que je suis parti sur un film produit par Jacques Perrin qui s'appelait « Le peuple singe ». Et j'étais un des ingénieurs du son. Et là, je me suis retrouvé dans des coins complètement perdus en pleine Amazonie en étant technicien du son. Et ça a été absolument génial, tellement c'était différent.
Alors voilà, autre chapitre de votre vie, les expéditions scientifiques, les documentaires animaliers. Alors, effectivement, vous nous parlez de l'Amazonie. Vous avez vécu, sur une planète assez hallucinante, puisque vous étiez dans des plateformes, dans les arbres de la forêt amazonienne.
Et en bas, c'était de la forêt inondée.
Dans les gouffres de glace du Groenland. Vous avez plongé en sous-marin à 5000 mètres de profondeur dans le Pacifique. Vous êtes approché du cratère en éruption d'un volcan au Congo. Vous avez filmé le peuple singe décollé d'un iceberg en montgolfière non motorisée. Vous êtes parti en pirogue absolument seul dans la forêt amazonienne au milieu des crocodiles. Puis vous avez pénétré dans des pyramides jamais ouvertes.
De nuit, en plus.
Au public.
Oui, bon, c'est vrai.
On commence par quoi, Antoine de Maximy? Vous nous racontez quoi au milieu de ce délire qui ferait fulminer d'envie Indiana Jones?
Combien on a avant la pause? Je vous dis tout de suite ce que je vais vous dire.
On a 2 minutes.
Eh ben, en 2 minutes, je vous dis que je suis parti en pirogue la nuit pour aller faire des enregistrements en pleine Amazonie. Au départ, on devait partir à deux avec le caméraman. Finalement, il n'a pas voulu venir. Et je suis parti tout seul dans la forêt inondée avec mon micro, alors que je savais qu'il y avait des crocodiles partout. Et je me souviens qu'à un moment, je vois une petite lumière rouge. Je me dis, merde, un crocodile, il va couler, il va se laisser couler quand je vais arriver. Mais c'était ses yeux qui brillaient. Hein. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et puis, il a coulé. Et puis, plus tard, j'attrape une autre lumière rouge. C'était une grenouille. Je me dis, j'ai eu peur d'une grenouille. Et non, je soulève la grenouille avec ma pagaie qui est en fait un petit crocodile, un bébé. Je me dis, oupopo, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans le coin, etc. Et j'ai fait tous mes enregistrements, ça s'est bien passé. Et j'ai terminé cette nuit, assez loin de là où j'étais parti, dans une maison qu'on avait construite dans un arbre,
oui,
qui était mosquito-proof, à l'abri des moustiques.
Oui.
Et c'était extraordinaire. Et les pyramides,
oui,
je vais juste vous en dire un petit mot.
Les pyramides.
Mais j'ai fait, ça c'était pour faire un film sur de la recherche. Parce que, bon, des chercheurs pensaient trouver des choses dans les pyramides. J'ai passé 4 journées dans la pyramide rhomboïdale. C'est celle qui a 2 pentes, si vous regardez les pyramides qu'on trouve là-bas. Et cette pyramide n'est pas ouverte au public. Et là, c'était Indiana Jones. Parce que c'était même pas qu'on y allait avec des lampes de poche. Il y avait un groupe électrogène à l'extérieur. Et on partait avec une grappe d'ampoule, parce qu'il fallait qu'on y voit vraiment bien pour travailler. Et une rallonge qui devait faire 200 ou 300 mètres. Et donc, on rentrait dans ce truc, tu te retrouves dans un boyau de 1 mètre de côté carré, un boyau carré qui descend, et tu arrives dans une espèce de salle où là, c'est pas du tout comme quand tu visites. Il y a des blocs qui sont en train de tomber derrière, au sol. Il faut enjamber des blocs de roche. Et il y avait une échelle de 17 mètres en bois. 17 mètres, ça fait plus de 5 étages. Hein, pour arriver dans un tout petit trou, aller à un autre endroit où il y avait... On se dit que ça devait être un piège pour les envahisseurs, enfin pour les brigands. Et puis surtout, tu essayes de comprendre la logique du lieu. Pourquoi est-ce que tu arrives par en haut? Et tu te dis qu'il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas tout trouvé les passages. On arrive par des passages qui ne sont absolument pas logiques.
Europe 1. Bon, vous savez quoi? On s'interrompt vraiment un très 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 court instant et puis on replonge avec vous dans le film, parce qu'il s'agit vraiment d'un film. Alors à tout de suite avec Antoine de Maximy, histoire de bousculer vraiment nos vies trop sages.
Il est 15h31, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
Sa curiosité est sa seule boussole. Je reçois Antoine de Maximy, le globe-trotteur et squatteur de l'émission culte « J'irai dormir chez vous ». Antoine de Maximy qui se lance un nouveau défi, un film pour le cinéma. Alors cher Antoine, on sait que vous êtes intrépide, que rien ne vous arrête et que votre curiosité, votre appétit de découverte sont sans limite. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'avant d'imaginer le concept de « J'irai dormir chez vous », vous étiez vraiment un aventurier aguerri qui a signé des documentaires pour National Geographic, la chaîne Voyage, Discovery Channel. Justement, vous évoquiez avant la pause votre déambulation dans des pyramides interdites au public. Vous pouvez nous embarquer dans d'autres aventures totalement folles. Ça va être difficile de choisir, je sais.
Ah oui, ça va être difficile. Ben oui, parce que comment choisir entre une plongée à 5000 mètres de fond qui dure 8 heures dans un sous-marin de recherche de l'Ifremer, c'est complètement fou. Trois personnes qui descendent au fond de la mer, qui ont eu des hublots pour voir le fond de la mer. Ça, c'est absolument extraordinaire. Descendre dans un volcan pour aller récupérer de la lave, dormir dans le volcan avec un masque à gaz sous la tente.
On dort bien avec un masque à gaz.
On dort très mal.
Il fait quelle température?
Il faisait pas très chaud parce qu'en fait on était pas mal en altitude. C'est le Nyiragongo qui se trouve en République démocratique du Congo. Donc on n'est pas très loin de l'équateur. Mais on est à 3000 mètres d'altitude, donc il fait plutôt froid.
D'accord.
Mais quel environnement incroyable, c'est génial.
Il y en a d'autres encore.
Ben
il y a
les d'autres.
Les montgolfières non motorisées.
Alors oui.
Par exemple, décoller d'un iceberg.
Alors oui, ça c'était juste pour faire des images. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de drone. Donc si on voulait des images aériennes, c'était l'hélicoptère. Mais quand tu vas dans des endroits extrêmement éloignés, des hélicoptères, si tu le fais venir, ça te bouffe le budget déjà rien que pour qu'ils viennent sur place. Mmh. Donc on avait mis au point avec Danny Clayet-Marel, qui est le pilote du radeau des Cimes, on avait mis au point une montgolfière, mais à la place du panier qu'on voit toujours dans les montgolfières, il y avait une banquette à deux places. Et on était assis côte à côte. Il y avait le pilote à droite et le caméraman, moi en l'occurrence, à gauche. Et j'avais une fixation pour mettre ma caméra soit entre nous deux, soit carrément sous le siège. Et c'est le vent qui nous poussait et ça nous permettait de faire de superbes prises de vue aériennes.
Mais vous pouviez quand même la diriger à la force du vent, à peu près.
Non, très mal. Et on a fait des images comme ça au Groenland, au milieu des icebergs, et on s'est installé sur un iceberg où on a gonflé la montgolfière. Les gens nous ont dit après que c'était de la folie parce que parfois ils se retournent. Et on est parti comme ça, poussé par une petite brise, en faisant des travelling, mais à 10 cm de l'eau. On avait trois zodiacs qui étaient là pour nous bloquer si le vent nous poussait vers le large.
Oui, parce que décoller, d'accord, mais réatterrir.
Il faut se poser sur du dur. Or, une montgolfière, ça vole à peu près une heure et l'eau était à 2 degrés.
Donc, il ne fallait pas faire un piqué dans l'eau.
Non, il ne fallait surtout pas.
Bon, Antoine de Maximy, après avoir relevé tant de défis au plus près des mystères de cette planète et de sa faune sauvage, il ne vous restait plus qu'à vous tourner vers l'humain. L'humain, et voilà, c'est ce que vous avez fait avec le concept de « J'irai dormir chez vous ». Mais il est né comment, concrètement, ce concept dont personne ne voulait au départ?
Ah oui, personne n'en a voulu, ça. Personne n'en a voulu tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans les cases. Parce qu'il faut quand même dire la vérité. Je veux dire, c'est filmé avec les pieds, je ne regarde pas dans le viseur. Donc, ça ne peut pas être très très bien filmé. Donc, ça bouge. On me disait, mais tu vas faire quoi? Moi, je n'avais rien d'autre à dire que j'en sais rien, puisque je ne sais pas qui je vais rencontrer. Simplement, comme j'avais déjà cette démarche d'aller voir ailleurs, d'être dans cette démarche d'hyper-ouverture.
Oui, et puis d'empathie naturelle pour les gens. Alors, depuis 15 ans, vous sillonnez donc le monde pour demander à des inconnus la chose la plus intime qui soit, vous laisser dormir chez eux.
C'est vrai.
Or, la plupart du temps, vous ne parlez pas leur langue. Et pourtant, ça marche. Donc, la langue n'est pas le barrage qu'on imagine.
Non, alors on ne parle pas littérature ni philosophie, mais on arrive à échanger sur plein de choses. Et de toute façon, il y a un vecteur, il y a un lien.
Pour les convaincre de vous laisser dormir chez eux, donc pénétrer leur intimité.
Il faut qu'ils aient confiance en toi. Et une très bonne manière d'inspirer confiance aux gens, c'est qu'ils se sentent bien avec toi et c'est de les faire rire. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans tous les pays du monde, il y a énormément de gens qui, ne demandent qu'à rire et même aimeraient rire plus. Mais il y a aussi qu'il faut tomber aussi sur la bonne personne. Parce que de toute façon, tout le monde ne t'ouvre pas sa porte. Et je dirais même que c'est pas...
Vous savez la repérer
d'une part, oui, bien sûr. Et aussi, c'est pas uniquement la bonne personne. C'est la bonne personne au bon moment. Mmh.
Bon, dormir chez l'habitant, oui, mais dîner chez l'habitant, quand on est dans les coins les plus reculés de la planète, selon les traditions culinaires, j'imagine que parfois ça a dû être à la limite de l'insurmontable.
Oui, bien sûr, mais c'est pas toujours dans les pays les plus roots, je dirais, que c'est le plus
c'est
dur.
Vrai
ah ben non, il y a un pays, je sais pas le prononcer, mais le Akarl, ou Akarl, ils doivent dire un truc comme ça, c'est en Islande.
Oui.
Bon, c'est un pays hyper civilisé, l'Islande.
Oui.
Eh ben, vous savez ce qu'ils mangent ?
Eh ben, dites-nous.
Du requin fermenté, du requin pourri fermenté. C'est-à-dire que quand ça
Et ça,
arrive...
il a fallu honorer ce plat-là, c'est
mais
ça ?
Non seulement, moi j'ai voulu le goûter, ce truc. Parce que, bah oui, je veux essayer. Mais c'est abominable, ça sent l'ammoniaque. Le goût, ça va. Et en fait, tout le boulot, c'est d'essayer de se persuader psychologiquement que c'est normal, puisque d'abord, un, ils le font, et il faut se mettre à la place d'un Japonais à qui tu vas donner un bon fromage, parce qu'un bon fromage n'est rien d'autre que du lait abominablement
fermenté.
Pourri.
Bien
non,
sûr,
c'est pourri.
Bien sûr.
Donc, c'est une histoire de culture.
Bon, d'accord, c'est une histoire de culture. Mais là, on n'a pas évoqué vraiment les dangers. En Asie, par exemple, en Corée du Sud, c'est ça ? On vous a drogué, Antoine
de Maximi. Je ne crois pas qu'on m'ait drogué. À un moment, j'ai cru ça. J'ai cru que c'était une drogue. Je ne crois pas.
Parce qu'il y a 6 heures de votre vie qui vous ont échappé totalement, n'est-ce pas ?
Qui me manquent. Enfin, qui ont failli m'échapper. Parce que j'étais suffisamment frappadingue pour arriver dans un état second à continuer à filmer. Donc, toute cette période pendant laquelle je n'ai pas de souvenirs, je l'ai filmé. Et ça, c'est inestimable, même simplement pour moi. Parce que, on va résumer ça, mais on disait à une époque, tu t'es vu quand t'as bu ? Ouais, je me suis vu. Parce qu'en fait, c'était pas uniquement les herbes, c'est aussi la boisson.
Il paraît que vous ne désespérez pas d'aller tourner « J'irai dormir chez vous » en Corée du Nord.
Oui.
Mais si vous parvenez à y entrer, vous avez quand même toutes les chances de dormir en tôle plutôt que chez l'habitant, le soir même.
Ce que j'aime bien faire pour « J'irai dormir chez vous », c'est faire ce que tout le monde pourrait faire. Alors, avec ma manière de fonctionner, mais en général, je ne veux pas avoir de passe-droit. Je ne pense pas, en tout cas, aller tourner en Corée du Nord sans l'autorisation. Je ne peux pas faire ça. Mais j'adorerais... Et j'espère bien être parmi les premiers qui auront l'autorisation d'aller filmer là-bas.
Europe 1.
Alors Antoine de Maximi, toute cette adrénaline, ces frissons, ces mystères, ces rencontres surréalistes, vous avez décidé d'en faire le matériau d'un vrai film d'aventure pour le cinéma. Un film pour lequel vous lancez une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire de financement participatif avec les internautes et les téléspectateurs d'ailleurs qui vous suivent depuis 15 ans. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. À tout de suite.
Vous le connaissez depuis près de 15 ans dans son émission « J'irai dormir chez vous ». Antoine de Maximi est l'invité d'Isabelle Morizet cet après-midi. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Antoine de Maximi, s'il reste bien un aventurier en 2019 sur cette planète, c'est vous. Et l'aventurier que vous êtes, bah désormais, il s'attaque au cinéma avec un projet passionnant et participatif pour le financement du film. Racontez-nous. On commence par quoi ?
On commence par
Kiss Kiss, Bank Bank ?
Non, on va commencer par la motivation de départ. Je voyage depuis des années, je me retrouve régulièrement dans des situations qui peuvent être un peu tendues et les gens qui regardent les épisodes se disent « Ouh là là, comment il va s'en sortir ?» Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est que moi, quand je vis cette situation, je me pose la même question avec une vraie incertitude, c'est que peut-être que dans 10 minutes, ça va vraiment tourner vinaigre. Voilà. Et donc, je me suis posé sans arrêt. Mais qu'est-ce qui aurait pu se passer si ça dérapait vraiment ? Et si même je disparaissais ?
Par exemple, qu'est-ce
qui pourrait m'arriver ?
Est arrivé. Alors, la terreur la plus absolue que vous ayez vécue au cours d'un tournage de J'irai dormir chez vous ?
Alors, là où j'ai eu vraiment peur et j'ai eu le temps d'avoir peur, c'est par exemple en Bolivie. Bolivie, ça nous ramène en 2006. Et là, je suis en train de me balader dans La Paz, la capitale, et j'ai mon matériel sur moi. Je vais à la rencontre des gens, hop, comme une fleur. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et à ce moment-là, il y a une femme qui se met devant moi et qui me dit « Donne-moi ton autorisation de tournage. » Je lui dis « Vous êtes de la police ?» Elle me dit « Oui, habillé en jean, bon. » Mais très, 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 rentre dedans. Et moi, j'avais déjà de l'expérience, donc je ne tombe pas dans un piège pareil. Et je lui dis « Montrez-moi votre carte de police. » Et là, elle rate, elle perd, elle a perdu la bataille. Elle me dit « Je te montrerai ma carte de police quand tu m'auras montré ton autorisation. » Pas une seconde, t'y crois. Quand t'as une carte de police, tu la montes pour que l'autre il se taise. Et elle voulait me faire monter dans une voiture pour aller au commissariat. Chose qui se fait là-bas parce que les policiers n'ont pas toujours de voiture. Mais si je montais là-dedans, j'étais dépouillé dans le meilleur des cas. Mmh. Éventuellement, on prenait ma carte de crédit, on allait au distributeur. Puis après, tu ne sais pas jusqu'où ça va.
Bon. Donc
ça, c'est le premier truc. Arrive à ce moment-là des gens qui prennent ma défense parce que je ne veux pas me laisser faire. Je dis, je ne monte pas dans la voiture, on va appeler l'ambassade de France, viens, et je fais du bruit. Et à ce moment-là, arrive la vraie police. La police touristique qui s'occupe des problèmes avec les touristes. On se fait tous embarquer au poste. Moi, je me retrouve avec des caméramens qui viennent me filmer et je m'aperçois que je suis en direct à la télévision sur l'événement. Un touriste a failli se faire enlever, gna gna gna. Et je regarde la télé, j'étais en direct à la télé. Il y a 6 chaînes de télé qui sont venues m'interviewer au commissariat de police. Donc j'ai fini par repartir. Elle est restée en prison, mais ils l'ont libérée assez vite parce que c'était sa parole contre la mienne et que je n'ai pas montré les images. J'aurais peut-être dû, d'ailleurs, j'en sais rien. Toujours est-il qu'elle a fini par ressortir après 2-3 jours de prison. Et moi, je continue à faire mon tournage. Et donc, je vais en Amazonie bolivienne. Je tourne, je fais des rencontres super. Les mecs me reconnaissaient dans la rue parce qu'ils m'avaient vu à la télé, donc ça compliquait un peu les choses. Et je reviens à La Paz, à la capitale.
Oui.
Et à ce moment-là, je vais chez des gens chez qui j'avais été qui me disent « il y a des gens qui te cherchent ». Ça fait 2 jours qu'il y a une voiture qui planque devant la maison. Ça fait deux... Donc, je me retrouve dans un pays où il y a des amis de cette femme qui veulent me coincer, alors que moi, mon but est de rencontrer des gens que je ne connais pas et d'aller chez eux. Ça veut dire que je ne suis même pas le mec qui... Je ne peux pas me méfier de l'inconnu. Donc, pour moi, le tournage, il est terminé. Je ne peux pas continuer dans ces conditions-là.
Mais il faut réussir à leur échapper.
Et là, j'ai peur. Parce que je me dis, mais s'ils me chopent, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, je peux te dire un truc. Je suis rentré dans une voiture, couché, derrière les banquettes.
Pour quitter la Bolivie ?
Pour quitter la résidence de la personne chez qui j'étais.
Ouais.
J'ai passé la nuit à l'ambassade de France. Et le lendemain matin, un chauffeur m'emmenait direct à l'aéroport parce que je ne pouvais pas rester dans le pays. Et ben, sur la route de l'aéroport, il était 5 heures du matin, il faisait nuit. Et moi, j'étais prêt à tout. J'étais prêt à sortir de la voiture et j'avais, si jamais il y avait un barrage...
Et vous disiez, mon Dieu, on est suivi.
Mais je me disais, ils ne mourront pas vivants. Moi, je veux bien mourir, mais je ne veux pas souffrir. Voilà ce que
bon,
je me disais.
Alors... Donc, le sujet du film, le scénario de la fiction que vous écrivez, ça s'inspire
de
toutes ces terreurs. Ça n'est pas cette histoire-là.
Non.
Mais, alors, j'ai plein de questions à vous poser. Le casting, ça y est, il est fait ? Qui seront les acteurs ?
Non, il n'est pas fait. Moi, je compte beaucoup, beaucoup sur Vimala Ponce, qui est une comédienne. Regardez sur Internet, elle n'est pas encore hyper connue, mais vraiment, c'est la personne idéale. Parce que, en fait, moi, je ne suis pas le premier rôle. En fait, l'histoire, c'est... Au début, ça dérape. Et qu'est-ce qui se passe après ? Qui peut essayer de savoir ce qui m'est arrivé ? C'est ça, l'histoire.
Vous l'avez, le titre, Antoine de Maximi ?
On a un titre qui, pour l'instant, est vraiment, vraiment, il me plaît bien.
C'est
une extrapolation qui serait « J'irai dormir dans les Carpates », car c'est là-bas que ça se passe.
Ouais.
Et le mot « dormir » barré.
Oui.
Et à la place, « mourir ».
Ouh.
Mais dites-vous bien un truc, je ne vais pas faire un truc premier degré, enfin, vous me connaissez, moi, il faut qu'on s'amuse, mais il faut qu'on ait peur, mais il faut que ça soit bien, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait tout.
Voilà, ce film va vous ressembler.
Donc, il va me ressembler.
Atypique.
Voilà.
Alors, la plateforme de financement sur Internet, KissKissBankBank, on peut mettre 5, 10 euros, on peut être beaucoup plus généreux, bien sûr, et ça, ce sera formidable.
Ça commence à 5.
Ça commence à 5.
Parce que, en fait, ce que je veux faire avec ce truc, pour l'instant, on n'a pas de sous, ou très peu.
Mais vous démarrez le tournage en septembre.
Oui, je le ferai avec ce qu'on
aura.
On
est dans l'urgence, là.
Ouais, parce que ça ne sert à rien de perdre du temps. En ce moment, on est sur une très bonne dynamique avec mes producteurs. Tout ça, vraiment, ça avance. Mais on n'a pas encore concrètement les sous. Donc, plus il y aura de gens qui auront mis 5 euros
bien sûr.
Sur le truc, plus on va comprendre que le film, quand il va sortir, eh ben, les gens l'attendent.
On fait une pause. On retrouve tout de suite Antoine de Maximi.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est la dernière partie. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet en compagnie d'un animateur globetrotteur.
Antoine de Maximi, le héros de l'émission culte « J'irai dormir chez vous » et cet après-midi, mon invité. Cher Antoine, est-ce que vous regrettez finalement de ne pas avoir lancé « J'irai dormir chez vous » 10 ou 15 ans plus tôt ?
Ah oui, 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 je regrette énormément. Je regrette énormément. Je ne sais pas si techniquement on aurait pu le faire, mais quand j'ai commencé à voyager, c'était...
Déjà la fin, en fait, d'un monde, c'était déjà...
Est-ce qu'on peut parler de fin ou simplement une mutation continuelle, et etc. Mais quand même, il y avait des différences de pays, d'un pays à l'autre, qui étaient beaucoup plus marquées. Alors, on les a encore. Et moi, d'ailleurs, si je peux donner un conseil aux gens qui voyagent, moi, je suggère d'aller dans les petites villes, dans les pays. Les petites villes, c'est les villes qui ne sont pas emblématiques, qui n'ont l'air de rien comme ça. Parce que quand on va dans les campagnes, les campagnes, il ne se passe pas grand-chose. Quand on va dans les endroits touristiques, ils sont top mondialisés. D'abord, tu vas croiser des gens de tous les pays. Et les gens du pays que tu vas rencontrer sont habitués à parler à des gens de tous les pays. Alors déjà, ce n'est pas très intéressant. Et les grandes villes, c'est pareil, elles sont très internationales. Ça communique, donc forcément, c'est très connecté. Alors que quand tu vas dans les petites villes...
Le temps s'écoule plus lentement.
Oui, et même s'ils ont Internet et qu'ils savent comment ça vit ailleurs et tout, ils ne sont pas confrontés souvent aux touristes. Parce qu'il y a très peu de touristes. On va prendre chez nous Limoges ou toutes ces villes qui sont des vraies villes, mais qui ne sont pas des plaques tournantes. C'est là qu'il faut aller. C'est là que tu as l'atmosphère du pays avec la vraie vie. C'est-à-dire que tu as les commerces, tu as les machins. Et moi, je me souviens par exemple d'une ville, je vais dire Muzaffarnagar, c'est en Inde, petite ville au nord de Delhi. Personne ne va à Muzaffarnagar.
C'est bien dommage.
C'est là où j'ai fait repeindre ma voiture, qui était blanche et qui après était jaune et rouge. Je peux vous dire que ça donnait autre chose. Hein.
Ah, j'imagine. Alors, j'irai dormir chez
génial.
Vous. C'est un programme qui est diffusé dans de nombreux pays, n'est-ce pas ?
Non ! Heureusement, d'ailleurs.
C'est pas possible. J'imaginais, au contraire.
Mais non, parce qu'ils sont comme les premiers Français qui ont vu l'émission. Ils se disent, oula, ça c'est pas pour notre pays, etc.
Mais depuis 15 ans,
oui,
ils sont pas convaincus ?
Non, ils sont bizarres, les gens. Mais... l'Italie. Alors c'est là que je me dis, mais pourquoi ils n'essayent pas quand on voit ce que ça a donné en Italie ? L'Italie a acheté 26 épisodes. Ils les ont passés une première fois. Un an après, ils rediffusent les 26 épisodes en multidiffusion, 3 fois par jour, 5 jours par semaine. C'est pas un échec, ça. Et quand j'ai tourné l'épisode Italie, alors que j'avais pas mis les pieds dans le pays depuis une petite dizaine d'années, ils venaient faire des photos dans les rues.
Mégastar.
Peut-être pas, mais il y avait plein de gens qui m'appelaient par mon prénom.
Bon, est-ce que vous pensez que cette émission Gérard Darbert chez vous a pu contribuer au fil des années à faire envisager autrement la manière de voyager et de se rendre chez l'habitant ? En tout cas, pour nous, Français, puisque vous dites qu'à part l'Italie et la France, voilà, il n'y a pas d'autres diffusions. Mais peut-être que vous nous incitez, on s'en rend pas compte, mais vous nous incitez à utiliser autrement notre curiosité, c'est ça ?
Ah mais clairement, clairement. Parce que j'ai des retours, c'est-à-dire que les gens viennent souvent me voir où ils écrivent et qui me disent « j'avais jamais osé voyager seul, j'aurais jamais pensé le faire, votre émission m'a donné envie de le faire et maintenant je le fais ». Et puis je vais voir les gens. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé « J'irai dormir chez vous » en 2003, je me disais, chaque fois que je voyais un reportage sur les gens du pays, on les voyait pas parler. On voyait les monuments, on voyait les paysages, on voyait les trucs, mais les gens, ils n'existaient pas. Et moi, j'ai voulu faire l'inverse.
Voilà.
Ça s'appelle se démarquer.
Antoine de Maximy, en fait, pour vous, prendre des vacances, c'est rester chez vous ?
Complètement.
C'est dormir chez vous ?
Chez les potes.
Chez les potes ? Ah bon ? Mais qui vient dormir chez vous ?
Oh, il y en a de temps en temps, ça arrive. C'est même arrivé que j'accueille des gens que je ne connaissais pas.
Ça vous arrive ? Oui. Ah, rassurez-nous. Bon.
Mais je ne réponds pas à toutes les demandes, il y en a trop.
Il ressemble à quoi, votre port d'attache ?
Alors là, c'est une maison, c'est simple, j'ai une maison qui est très agréable, très lumineuse, etc., mais qui n'est absolument pas aménagée. Elle est très
vide,
fonctionnelle.
Vide comme la maison de vos parents ?
Assez vide, et surtout ampoule nue, au bout d'un fil. Et je l'ai achetée il y a 28 ans. Mais je ne m'en suis absolument pas occupé, pas de rideau aux fenêtres, je m'en fous.
Un jour, vous en occuperez ?
Je ne vois pas vraiment pourquoi. Non, peut-être pas.
Existe-t-il une madame de Maximy ?
Non, non, c'est pas mon truc, ça. J'ai une fille, j'ai eu des madames de Maximy.
Vous avez eu des madames de Maximy ?
Oui, parce que c'est... ma liberté passe avant tout, et ça, c'est très difficile à négocier.
Bon, cher Antoine, il faut nous rappeler, avant que vous ne repartiez à l'aventure, il faut nous rappeler le site sur lequel on va pouvoir concrètement participer au financement de la nouvelle grande aventure de votre vie, ce film pour le cinéma que vous tournez à partir de septembre et qui a pour titre « J'irai mourir dans les Carpates ». Alors, on fait comment pour être de l'aventure ?
Allez sur KissKissBankBank, vous tapez ça, je pense que vous allez trouver. Je suis tellement nul avec tous ces trucs.
Donc, J'irai mourir dans les Carpates, le film pour le 7e art d'Antoine de Maximy. Voilà, je veux donner mon obol, je veux en être de cette aventure.
Et faites-le, vous n'allez pas être déçus. Faites-moi confiance.
Bang, bang. Oui, surtout qu'il paraît que vous réservez des surprises. Il y aura un tirage au sort.
Ah oui, c'est vrai ça.
N'est-ce pas ?
Ah bah tiens, je le dis tout de suite, ça vaut le coup. Parmi tous les gens qui auront mis de l'argent, qui auront joué avec moi, qui me suivent, il y aura un tirage au sort et il y en a, on ne sait pas encore combien, mais au moins une dizaine, qui viendront dormir à la maison. Voilà, ils seront invités. Par contre, il ne faut pas croire, hein, matelas par terre, sac de couchage.
Comme vous, vous le faites chez les autres.
Et ils pourront filmer, bien sûr, je m'en fous. Moi, je dis, bien sûr. Non, non, et il y aura même une fête aussi à la fin. Quand... on va faire des trucs, ça va être très sympa.
Formidable, sympa comme l'a été cette émission. Je vous embrasse, je vous dis bon vent, à très vite. Et puis voilà.
Et je sais pas où je vais, mais j'y vais.
Mais voilà, mais ça c'est formidable. C'est votre devise, n'est-ce pas ?
J'adore.
Il ne sait pas où il va, mais il y va. Le vénard.
Europe 1. C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient demain dès 15h sur Europe 1 en compagnie du romancier Jean-Christophe Ruffin qui, dans son nouveau livre, met en scène le mariage sans fin d'un aventurier aussi, charmeur, un petit peu escroc, et d'une cantatrice un peu perchée. Ce roman a pour titre Les 7 mariages d'Edgar et Lounmia et c'est paru chez Gallimard.